La semaine aura débuté une fois de plus avec des faits d'une violence extrême. Au Pakistan, un double attentat suicide dimanche devant une église anglicane a fait plus de 80 morts et quelques 150 blessés. L'opération est revendiquée par un mouvement de talibans pakistanais. On le sait, au Pakistan, les minorités chrétiennes sont souvent la cible de discrimination et de violence dans un pays à très grande majorité musulmane. Une réalité complexe et bien connue du père Maximil Tambiampin, missionnaire spiritain. Au Pakistan, depuis 5 ans, il nous confiait sa pensée.
C'est des actes qui ne sont pas strictement à connotation, on va dire, religieuse. Il faut voir l'aspect humain. Il n'y a pas eu dans le passé que les chrétiens qui ont été visés. Il y a eu aussi des attentats dirigés contre des musulmans, contre des hindous. Donc c'est une violence plus ou moins généralisée qui touche, on peut dire, toute personne en humanité. En général.
Autre violence extrême au Kenya. Après plusieurs jours de terreur, l'assaut finalement contre le centre commercial Westgate et le siège meurtrier des Shebab somaliens prenaient fin. Plus de 60 morts civiles, 6 membres des forces de sécurité kenyanes mortes et 5 assaillants. Mais comment faire pour lutter contre les groupes terroristes, notamment contre ces Shebab somaliens? Difficile, comme le soulignait le chercheur Gérard Chalian, spécialiste des conflits armés. Il faut au moins connaître, nous dit-il, l'endroit où on met les pieds.
Importante en 2006 a été de choisir l'Éthiopie comme champion que les Américains ont appuyé pour aller contraindre les Shebab à abandonner Mogadiscio et d'une façon générale à être contrés. Envoyer des Éthiopiens en Somalie, c'est culturellement ne rien connaître à l'histoire de la Corne. Le gouvernement éthiopien est un gouvernement chrétien. La Somalie, avec les Shebab, c'est évidemment un islamisme ultra-militant. C'est un peu comme si vous envoyiez des troupes russes pour réduire une insurrection polonaise. Donc ce genre d'erreur a beaucoup aidé les Shebab, par patriotisme, à accroître le nombre de leurs partisans, à unir les forces de divers mouvements contestataires. Au lieu de réduire cette insurrection, ça l'a au contraire alimenté.
Et en Syrie, avec ou sans armes chimiques, le conflit se poursuit. Les chrétiens de la région peuvent-ils rester neutres? Une question que nous avons posée au père David Neos, vicaire patriarcal pour les catholiques de langue hébraïque en Israël.
L'Église est là pour assister, pour soutenir le peuple en tant que peuple dans leur souffrance. Et nous ne sommes pas partie prenante ni pour un côté ni pour l'autre. Le chemin des chrétiens au Proche-Orient doit être le chemin de faire des alliances avec ceux qui partagent la même vision de société, le même principe. Les chrétiens sur place doivent réfléchir en profondeur dans toute la complexité, les défis qui sont en face. Et encore une fois, il faut le dire clairement, il y a une soif pour la liberté, une soif pour la démocratie. Ça ne veut pas dire que toute l'opposition au régime dictatorial a la même soif.
Au Vatican, mercredi, des imams français, emmenés eux par l'écrivain d'origine juive Marek Alter, assistaient à l'audience générale du pape François, place Saint-Pierre. Parmi les imams venus de France, celui de Drancy, Hassan Chalgoumi, rencontrant la presse à l'ambassade de France près de Saint-Siège, il n'était pas tendre à l'égard de ses co-religionnaires extrémistes.
Il faut soutenir le modéré, il faut soutenir le dialogue, il faut avoir le courage de dire stop, on ne peut plus ça. 14 siècles, ils vivent ensemble. Une bande de barbus, une malade mentale. Il est en train de l'assassiner, torturer, prendre en otage des familles et des villages, brûler des églises. Est-ce qu'on trouve ça, c'est normal? Non.
Dans la région, toujours l'Iran. Avec l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine, le nouveau président iranien était attendu au tournant pour son premier grand rendez-vous international. Depuis son élection en juin, Hassan Rouhani multiplie les signes de bonne volonté et d'ouverture. Et Téhéran a annoncé être prêt à discuter du dossier nucléaire, ouvrant ainsi la voie à une réunion sans précédent avec les États-Unis sur ce dossier délicat. Ces changements de la politique iranienne ne surprenaient pas Bernard Rourkad. Pour ce directeur de recherche au CNRS, l'élection de Hassan Rouhani est tout sauf un hasard.
Il a été élu pour sortir de la crise et du congélateur de l'isolement dans lequel l'Iran se trouve depuis la révolution islamique de 1979, concrètement. Il y a en Iran un nationalisme extrêmement fort. Il y a aussi une ouverture internationale qui est importante, une bourgeoisie moyenne évoluée. Et le gouvernement iranien a 35 ans d'expérience gouvernementale. Autrement dit, ils ont fait le point sur l'islam politique. Et donc, le choix politique était clair. Soit l'Iran devenait un pays isolé du reste du monde, ravagé par les crises intérieures, ou la République islamique se modernisait. C'est le rêve de Khomeini finalement qu'il cherche à réaliser.
Quel diagnostic sur le réchauffement climatique? Ce vendredi, les experts du GIEC présentaient à Stockholm leur quatrième rapport sur l'évolution du climat alarmant. La planète se réchauffe inexorablement, la faute à l'activité humaine. Mais comment limiter le recours aux énergies fossiles et le gaz à effet de serre, tout en maintenant la croissance économique? Nous vous proposions l'analyse de Anne de Bettencourt, responsable des relations extérieures de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme.
Décroître le modèle existant n'est pas viable. Parce que peut-être que ça a une partie qui est de « je vais réduire le modèle existant », donc je vais réduire l'impact du modèle existant, d'accord ? Mais je ne fais que reculer l'échéance. Et donc, nous, notre position, c'est de se dire « la décroissance n'est pas une solution ». On a aujourd'hui une partie de décroissance subie, parce qu'on va aller vers une raréfaction des ressources, mais à partir de cette décroissance d'extraction des ressources naturelles, quel modèle économique ensemble on crée pour pouvoir avoir du progrès, du confort et un bien-être pour l'environnement et les sociétés humaines.